VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir Afrique, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Billon. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Conflits dans le nord du Mali, de violents affrontements ont opposé les forces pro-gouvernementales du groupe autodéfense Touareg, Imgad et Alliés, le Gatia, aux rebelles Touareg vers Anéfis, à environ 120 km au sud de Kidal. Ces parties ont pourtant toutes signé l'accord de paix. Le bilan de ces trois jours d'intenses combats qui s'élèveraient à au moins un mort côté Gatia et 12 dans les rangs de la CMA, coordination des mouvement de la Zawad. Deux chefs rebelles auraient également été capturés, nous dit Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Depuis le samedi 15 août jusqu'au lundi 17 août, des combats intenses opposent les éléments de la CMA à ceux du Gatia et Alliés dans la région de Kidal. Les premiers affrontements se sont déroulés à quelques kilomètres de la ville de Kidal. C'est lundi 15 août, après des combats à Anéfis, les Gatia et Alliés ont pris le contrôle de cette localité. Ils ont perdu un homme et un véhicule. Du côté de la CMA, le bilan est lourd. 12 rebelles ont été tués, 4 véhicules récupérés et 2 chefs rebelles capturés. Dans la même journée, les combats ont continué dans les environs de Kidal, plus précisément dans la localité de Tassik, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale de l'Adra des Iforas. Au même moment, les éléments de la CMA stationnés à Agelhok se sont réfugiés dans les camps de l'aménagement de cette localité. D'autres hommes en fraction dans la région de Kidal ont replié sur la ville de Kidal, abandonnant leur base, car les prochains combats entre la CMA et les Gatia seront autour et à l'entrée de la ville de Kidal, qui demeure l'enjeu et le défi pour les hommes de Gatia. Et alliés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Remue politique en Côte d'Ivoire à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 25 octobre. Des opposants affirment avoir été empêchés de tenir un meeting samedi à Korogo, dans le nord du pays, fief du parti au pouvoir. Nos installations du meeting ont toutes été saccagées par des jeunes du parti au pouvoir, a dénoncé David Samba, membre de la Coalition nationale pour le changement, cité par l'AFP. La police, débordée, a demandé à la délégation de quitter la ville après des échauffourées entre jeunes pro-CNC et ceux proches du régime, a affirmé M. Samba. Allégation démentie par Joël Nguessan, porte-parole du Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. D'après lui, le meeting a avorté en raison des dissensions internes au sein de l'opposition. Au Burundi, le secrétaire général de l'ONU, préoccupé par la violence à motivation politique. Ban Ki-moon condamne l'assassinat du colonel à la retraite, Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée, tué devant sa résidence par des inconnus à Bujumbura le 15 août. Le secrétaire général réitère ses appels à tous les Burundais de reprendre le dialogue inclusif, sans délai, en vue de régler pacifiquement leurs différends. Il réitère également l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts visant à consolider la paix et la stabilité au Burundi. République démocratique du Congo, l'ONU lance une campagne contre les violences sexuelles sur mineurs à l'intention de ses employés. La MONUSCO entend ainsi rappeler la tolérance zéro pour le personnel des Nations Unies en matière de violences sexuelles. Cette initiative intervient suite à la démission du chef de la mission en République centrafricaine, sur fond d'accusations de viol par des casques bleus. Et le président du Soudan du Sud a refusé de signer un accord de paix proposé par les leaders régionaux de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. Le texte visait à mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013. C'était aujourd'hui, à Addis Abeba, en Éthiopie, peu avant l'expiration d'un ultimatum fixé par la communauté internationale aux belligérants pour paraffer le traité. Selon la médiation, le gouvernement de Salva Kiir a demandé un délai de 15 jours supplémentaires. On fait le point avec Jacques Aristide.
Ce devait être la date butoir, mais la montagne n'a accouché que d'une souris, car les protagonistes du conflit sud-soudanais ne sont pas parvenus à un accord de paix total. Ce sont seulement Pagan Amoum, secrétaire général du parti au pouvoir, SPLM, et l'ancien vice-président Riek Machar, chef des rebelles, qui l'ont signé, mais pas le gouvernement qui a émis des réserves. Pourtant, la poignée de main auparavant entre le chef de l'État Kiir, présent dans la salle, et son ex-adjoint Machar, avait laissé entrevoir un accord définitif. Cette cérémonie de signature n'est pas complète sans la signature du gouvernement, a regretté le médiateur de l'IGAD, Seyoum Mesfin, d'ajouter que les autorités ont décidé de repartir dans leur pays et mener des consultations. Il a également indiqué que le président Kiir reviendrait d'ici 15 jours dans la capitale éthiopienne pour parachever cet accord de paix.
Pas de rassemblement constaté ce lundi en Guinée-Bissau. Les appels à cesser le travail et à manifester pour exiger la reconduction du Premier ministre destitué n'ont visiblement pas été suivis. Les possibles protestations faisaient craindre pour la stabilité de ce pays qui en est à son cinquième jour sans gouvernement. Simoes Pereira a été démis le 12 août par le chef de l'État, José Mario Vaz. Et du nouveau dans l'affaire Pistorius en Afrique du Sud, le parquet va tenter d'obtenir en appel une condamnation pour meurtre et une peine de prison sévère contre l'ancien champion paralympique. En première instance, Oscar Pistorius n'a été condamné que pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Steenkamp. Conséquence, il doit sortir dès vendredi après avoir passé 10 mois en prison.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, inquiétude persistante en Chine après la catastrophe de Tianjin qui a fait officiellement 114 morts. Les autorités chinoises s'efforcent de contenir des centaines de tonnes de cyanure hautement toxique sur le site des explosions. Nicolas Pinault, la colère gronde parmi les habitants.
Selon le vice-maire de Tianjin, environ 700 tonnes de cyanure de sodium étaient stockées dans l'entrepôt où ont éclaté les puissantes déflagrations la semaine dernière. Des opérations de nettoyage de grande ampleur, très difficiles et délicates, sont toujours en cours, selon M. He, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dans cette métropole située à 140 km de Pékin. Les efforts de nettoyage sont compliqués par la présence dans la zone portuaire de quelques 18 000 conteneurs de fret maritime et par les craintes que des pluies annoncées dans la soirée ne favorisent la propagation dans l'air de cyanure d'hydrogène. Les équipes de secours ont construit des barrages de sable et de terre délimitant une zone de 100 000 m² autour du site pour éviter toute fuite de composants polluants. Des analyses d'échantillons d'eau recueillies au plus près du lieu des explosions ont révélé dimanche des niveaux de cyanure 27 fois plus élevés que la normale. Des experts militaires en armes nucléaires, bactériologiques et chimiques ont été déployés, tout comme des spécialistes du cyanure de sodium. Sur place, la colère monte. Environ 150 sinistrés, dont les appartements se trouvaient à seulement 600 mètres du lieu des explosions, ont manifesté ce lundi pour faire entendre leurs inquiétudes, mais aussi pour réclamer des indemnisations.
Au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans un attentat à la bombe dans le centre de Bangkok ce soir, à proximité d'un temple hindou, un sanctuaire très fréquenté sur une artère du centre-ville à une heure de pointe, ont précisé la police thaïlandaise et les secouristes. Plus de 80 personnes ont été blessées dans cette puissante explosion, affirme le centre médical d'urgence. La Russie a accusé aujourd'hui l'armée ukrainienne de préparer une offensive dans l'est de l'Ukraine. Au moins 10 personnes, en majorité des civils, ont péri dans de nouveaux affrontements, les plus meurtriers depuis un mois sur la ligne de front. Dans le même temps, l'Union européenne a condamné le nouveau regain de violence et appelé au respect de la trêve entrée en vigueur en février, mais violée quasi quotidiennement ces derniers temps. Un séisme de magnitude 4 s'est produit ce matin dans les environs de San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. L'Institut de géophysique américain précise que le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 5,4 km et son épicentre se situe à 21 km à l'est de la mégalopole californienne. Guerre civile en Syrie, l'ONU condamne les raids aériens aérien du gouvernement syrien hier sur un marché très fréquenté de Douma, à 13 km au nord-est de Damas. Bilan près d'une centaine de morts. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Et je cède la place à Jean-Roger Billon dans L'Amérique et vous.